Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», votre émission d'information et de débat. Cette semaine, dans l'émission, nous avons choisi d'aborder la situation au Proche et Moyen-Orient, et en particulier avec une attention particulière sur la situation du Liban dans la première partie de l'émission, puis sur la question de la Turquie dans la seconde partie. Donc, dans la première partie de l'émission, nous avons le plaisir d'accueillir Maya Kadra.
Bonjour.
Bonjour Maya, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste du Moyen-Orient, en particulier l'Iran, le Liban, le Hezbollah, et vous êtes également enseignante.
Oui.
Et donc,
exactement.
Et donc, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation dans cette première partie d'émission où on souhaite revenir. On l'a déjà fait dans d'autres émissions, mais c'est vrai que là, on est sur une actualité, je dirais presque brûlante, avec, ouais. Je dirais en plus d'une situation financière, économique, je dirais catastrophique ouais. dans le pays. Le Liban est désormais sur le devant de l'actualité pour une crise diplomatique. Une crise diplomatique qui, alors vous nous en direz plus parce qu'on a besoin de comprendre, mais qui serait en fait liée à une déclaration du ministre de l'Information, Georges Kurdaï, qui a donc qualifié la guerre du Yémen d'absurde et qui a aussi fait d'autres déclarations allant dans ce sens. Et à partir de là, il y a une accélération de décisions diplomatiques, en particulier de l'Arabie Saoudite, mais aussi le Koweït, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, qui rappellent leurs ambassadeurs, qui donnent quelques jours aux diplomates libanais pour faire leurs valises. Et donc là, on comprend que on est bien dans une crise diplomatique majeure.
Évidemment, et c'est une crise diplomatique qui avait beaucoup de signes avant-coureurs, Alexis. L'Arabie Saoudite, on se souvient de l'épisode de Saad Hariri qui a présenté sa démission en tant que Premier ministre il y a quelques années. Et d'aucuns ont parlé d'un kidnapping en Arabie Saoudite. Mais en gros, si on veut vulgariser un peu ce qui se passe, il y a une crise politique entre une partie du Liban, entre la classe politique actuelle qui est intimement liée au Hezbollah et qui tourne dans l'orbite de la milice iranienne implantée au Liban, et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est un pays majeur dans la Ligue arabe, c'est un pays très important, et c'est un pays surtout qui est lié, qui a des liens d'amitié avec le Liban, qui a des liens économiques avec le Liban qui sont très importants. L'Arabie Saoudite importe beaucoup de produits, surtout agricoles, du Liban. L'Arabie Saoudite, les investisseurs saoudiens, c'était les essentiels investisseurs pendant les années 90, donc la période de la reconstruction après la guerre civile. C'est grâce à eux que de l'huile a été apportée au rouage du système bancaire au Liban. C'est grâce à eux qu'il y a de grands hôtels au Liban, des boîtes d'investissement un peu partout sur le territoire libanais. Et il y a même, je dirais, tout comme la relation qui lie le Liban avec la France, c'est une relation non seulement politique, historique, mais affectueuse aussi. Il y a ce lien affectif entre le Liban et l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, depuis, disons-le, depuis l'année 2008, et donc l'invasion, je le rappelle, du Hezbollah pour les quartiers sunnites à Beyrouth et l'affaiblissement du leadership sunnite au Liban, ce leadership qui a été hérité par Saad Hariri, hérité de par son père, Rafik Hariri, qui a été visé par un attentat en 2005. Ce leadership-là a été complètement affaibli après l'invasion de Beyrouth, après un peu l'humiliation de Saad Hariri et les différents compromis qu'a fait Saad Hariri avec le Hezbollah, évidemment, après que cette milice a imposé un peu sa terreur dans ses quartiers sunnites. Et quand elle a pas lésiné sur les moyens, en fait, pour faire des dégâts dans les institutions des Hariri, à savoir la télévision du futur au Liban, Al-Mustaqbal. Et donc, l'Arabie Saoudite, elle est sur un sentiment de frustration, je dirais même de déception grandissante depuis 2008. Et le summum de cette déception, en fait, c'est aujourd'hui, après les déclarations de Georges Kordahi, l'actuel ministre de l'Information, qui ne sont pas les premières. Il y a eu dans l'ancien cabinet démissionnaire de Hassan Diab, il y a eu le ministre des Affaires étrangères qui a également critiqué l'Arabie Saoudite sur des accents très racistes, en les traitant des gens du désert, des gens qui montent à chameau et qui n'évoluent pas. Chose qui est pour moi un peu risible et complètement fausse et absurde, sachant que l'Arabie Saoudite est la première
insultante.
Actuellement.
C'est insultante.
Elle est très insultante et raciste. Et l'Arabie Saoudite, elle fait des progrès depuis une cinquantaine d'années. Et actuellement, elle s'engage activement dans la lutte pour le climat, dans la réduction des émissions de carbone en Arabie Saoudite, alors qu'au Liban, on voit que ce pays qui était nommé la Suisse de l'Orient dans les années 60, aujourd'hui, il s'enlise, que ça soit dans l'obscurantisme, dans les prévarications, dans la corruption et dans une crise économique sans précédent. Et donc, vient comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, cette déclaration du ministre de l'Information qui a diffusé, je dirais, une fake news sur la guerre au Yémen, en dédouanant complètement et en innocentant les Houthis de leur responsabilité. Les Houthis sont responsables, et ça d'après les rapports de l'ONU, de plusieurs crimes contre l'humanité. Les Houthis sont considérés comme les proxys de l'Iran au Yémen aussi, donc ils sont pas complètement innocents dans cette guerre. Au contraire, en fait, c'était le goupillon à cause duquel cette guerre au Yémen a été déclenchée. Et donc l'Arabie Saoudite humiliée plusieurs fois au Liban, qui était un pays très proche d'elle, elle n'a pas supporté une humiliation de plus provenant d'un ministre dans l'actuel cabinet de Najib Mikati, et donc elle est passée aux actes, aux choses concrètes. Ce n'est pas comme la France ou les États-Unis ou les pays occidentaux qui observent ce qui se passe au Liban, qui pourraient parfois imposer des sanctions, comme on a vu là dernièrement avec les Américains qui ont imposé des sanctions sur 3 personnalités libanaises, mais qui s'engagent pas davantage au Liban ou bien qui prennent pas des mesures diplomatiques plus que ça. L'Arabie Saoudite, c'est un pays qui a pris des mesures concrètes, qui a rappelé son ambassadeur Boukhari, qui est très actif au Liban sur le plan politique et qui rencontre toutes les personnalités politiques opposées au Hezbollah. Donc il a un rôle politique majeur au Liban. Il a même rendu visite et a fait une déclaration commune au patriarche maronite après l'appel de ce dernier à la neutralité du Liban et au respect de l'arabité du Liban en tant que pays membre de la Ligue arabe et pays fondateur de la Ligue arabe. Donc l'ambassadeur saoudien au Liban, ce n'est pas n'importe quel ambassadeur. C'est vraiment, on pourrait le considérer comme une personnalité politique et un acteur politique majeur au Liban. Et donc, ce qu'on comprend par ce rappel de l'ambassadeur et l'ultimatum de 48 heures qu'on a donné aux ambassadeurs libanais dans les différents pays que vous avez cités dans votre introduction, Alexis, c'est que aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point de non-retour. C'est soit le Liban avec ses amis traditionnels historiques dans le monde arabe, soit le Liban qui a sa double identité, je dirais occidentalisée et arabe aussi très enracinée, soit un Liban qui devient une satrapie perse, qui devient un Liban sous l'influence totale du Hezbollah. Et c'est ça l'équation actuellement qu'impose par cet acte diplomatique sans précédent l'Arabie Saoudite.
Alors tout cela intervient alors que le Liban traverse une des plus graves crises de son histoire, et en particulier une crise économique, financière, mais une crise même de la survie de la population libanaise qui aujourd'hui rencontre des difficultés immenses, alors même que Paris et Washington, donc le président Macron et les États-Unis, eh bien escomptaient une intervention plus forte des pays de la Ligue arabe et en particulier l'Arabie Saoudite pour aider au redressement financier. Donc là, finalement, c'est y compris le plan des Occidentaux pour aider le Liban à sortir de la crise qui est remise en cause. Et donc, on voit bien d'ailleurs depuis quelques heures, quelques jours, que le gouvernement Mikati essaye de rétro-pédaler, appelle au dialogue avec l'Arabie Saoudite. Mais en fait, les implications, elles sont beaucoup plus graves qu'une crise diplomatique. C'est aussi tout l'équilibre de la région qui est menacé.
Mais bien sûr, ça complique pour le Liban les négociations avec la Banque mondiale. Ça complique également donc ces aides financières qui ont été promises par l'Arabie Saoudite fille, il est plutôt qui regarde d'un bon œil Najib Mikati sans que ça soit le grand allié. Donc l'Arabie Saoudite était sur le point d'aider financièrement le Liban, et même certains investisseurs, on peut trouver ça sur les réseaux sociaux, mais Al-Hatoul par exemple, dans une de ses vidéos sur Twitter, a promis au peuple libanais de réinvestir au Liban. Lui, c'est un des plus grands investisseurs saoudiens au Liban. Et actuellement, tout ça est tombé à l'eau, parce qu'au-delà de la crise diplomatique, je l'ai déjà dit, c'est une humiliation sans précédent pour l'Arabie Saoudite. Et il a beau le procès d'aller et essayer un peu d'arranger les choses, de rafistoler Najib Mikati, mais le ministre de l'Information, Georges Kandari, aujourd'hui même a rappelé, et il a insisté sur une chose, c'est qu'il démissionnera jamais, il ne présentera pas d'excuses, et donc je trouve que même sans être adepte des théories du complot, mais on dirait que le ministre de l'Information, en fait, il a agi sur les ordres de quelqu'un.
Alors justement,
le Hezbollah, à ce moment très crucial de l'histoire du Liban, avec une crise économique qui touche 50%, Libanais. Aujourd'hui, 80% des Libanais vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est une hécatombe ce qui se passe au Liban. Les gens meurent de faim, littéralement. Et face à tout ça, voir que le ministre de l'Information persiste et signe et ne présente pas d'excuses, ni n'essaye même d'expliquer sa position, qui est une position qu'on lui attribue bien avant qu'il ne soit nommé ministre, c'était l'été dernier. Mais il n'a même pas éclairci les choses et il ne veut même pas démissionner au moment où 80% des Libanais maintenant vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc pour moi, c'est un pion, en fait, aux mains du Hezbollah, et je pense qu'il a été, entre guillemets, dans sa position, là, dernièrement, le fait de ne pas présenter d'excuses, sachant que lui, il a travaillé avec les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes, on dirait que par sa position, un peu têtue, très humiliante pour l'Arabie Saoudite, il y a quelque chose, il y a peut-être un ordre politique qui a été donné. Et ça, c'est uniquement une hypothèse, un petit pronostic de ma part, sans affirmer pas. Mais la position est tellement absurde dans un contexte complètement délétère au Liban qu'on pourrait se permettre de se poser des questions.
Alors justement, les questions, il y en a beaucoup. On ne pourra pas tout y répondre dans l'émission. On sera peut-être obligé d'ailleurs de faire d'autres émissions pour comprendre un petit peu la complexité de la situation. Mais d'abord, ce ministre, Georges Kurdaï, je pense que beaucoup d'auditeurs n'ont jamais entendu parler, ne savent pas s'il est proche du Hezbollah, ou est-ce qu'il est plus proche des sunnites de Michel Aoun, ou est-ce qu'il est dans une autre mouvance politique ou communautaire au Liban, parce qu'on sait que c'est un système politique extrêmement complexe. Comment vous pensez qu'à court terme pourrait y avoir une sortie de crise, dans la mesure où pour l'instant il ne démissionne pas, mais il se peut que demain il soit obligé de démissionner, mais certains disent que ça ne réglera pas de toute façon le problème qui est plus profond.
Oui, évidemment. En fait, juste une petite explication de Georges Kurdaï. Donc, c'est un présentateur de télé. Il présentait qui va gagner le million. Donc, c'est une émission grand public. C'est quelqu'un de... Au Liban, il est décrit comme un belâtre qui sent les cheveux, qui est très dandy. Mais c'est un monsieur aussi, et ce n'est pas nouveau, qui a longtemps exprimé sa fascination et son admiration, voire son amitié avec Bachar el-Assad, qui est le président syrien, à qui on attribue des crimes contre l'humanité. C'est un tortionnaire. C'est un dictateur et il fait partie des personnalités admirées et des personnalités amies avec Georges Kurdaï. Donc déjà, mettre en lumière ça prouve que M. Kurdaï n'est pas un grand démocrate, n'est pas quelqu'un qui comprend bien les valeurs de la démocratie. C'est quelqu'un qui a une exécration pour le monde arabe. Sachant, je vais les dire un peu d'une manière crue, mais qu'il a mangé à tous les râteliers dans les pays arabes, il a bossé aux Émirats dans le cadre de son émission, il a bossé un peu dans tous les pays arabes, mais il garde cette admiration, genre pour entre guillemets pour le régime laïque de Damas, c'est un régime dont la laïcité n'est qu'un cache-sexe et qui s'en sert en fait pour taper sur sa population, pour pilonner des villes entières. Et au Liban, dans la configuration qui existe, il est évidemment proche du parti socialiste nationaliste syrien. Il est proche du parti Al-Marada, qui est un parti, un micro-parti chrétien très féodal. C'est le parti de Frangillet, qui tourne également dans l'orbite du régime de Damas. Et donc, ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui a des liens qui sont anciens et des liens qui sont très forts avec le régime de Damas. Et par extension, c'est quelqu'un de proche du Hezbollah, et c'est ce qui explique en fait sa position. Et s'il ne démissionne pas, en fait, on s'attend à plus rien au Liban. Les Libanais, ils attendent juste en fait quelle est la cadence de leur cheminement vers l'enfer. Est-ce que ça sera précipité? Est-ce que ça sera ralenti? Mais les Libanais, pour eux, en fait, aujourd'hui, ils sombrent dans une spirale infernale. Et cette dernière position complètement irresponsable de la part du ministre de l'Information ne va pas arranger les choses, ne va pas renflouer les caisses du gouvernement libanais. Au contraire, ça va encore empirer les choses. Et d'ici les élections, on n'est même pas sûr que le gouvernement de Mikati va tenir le coup et qu'il va pas démissionner. Et le Hezbollah, en fait, ce qu'il veut, le Hezbollah et ses alliés, ce qu'ils veulent actuellement, surtout après la révolution du 17 octobre, après les changements des rapports de force en politique au Liban, le Hezbollah est en manque de popularité actuellement. Il garde évidemment ses fidèles, ses miliciens, ceux qui sont entraînés, mais il y a une grogne populaire contre le Hezbollah partout sur le territoire libanais. Donc il va tout essayer, et ça c'est mon avis, il va tout essayer pour noyer les élections, pour pousser le gouvernement à sa démission, pour pas qu'il y ait des élections, en gros. Donc c'est ça un peu le plan de la milice iranienne, et il fera tout pour que ça soit une déclaration du ministre de l'Information, que ça sera des attaques contre des quartiers résidentiels à Beyrouth ou ailleurs, que ça soit des contrôles des pièces d'identité, comme on a vu après les événements du 14 octobre, donc ce qui est la fusillade à Beyrouth. Ils ont contrôlé sur un week-end les pièces d'identité, comme au temps de la guerre, sur un des passages dans la montagne libanaise, les passages qui mènent à la Beka. Donc le Hezbollah, il va pas lésiner sur les moyens, il va tout faire pour que ces élections soient noyées. C'est ça l'enjeu principal aujourd'hui.
Merci beaucoup Maya Kadra. Je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste du proche Moyen-Orient, également enseignante. Merci d'avoir donné votre analyse et votre éclaircissement sur une situation, on l'a compris, qui est très complexe et probablement connaîtra d'autres rebondissements. On vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?»
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?» Et pour continuer sur la situation au Proche et au Moyen-Orient, après le Liban, on va s'attarder sur la situation de la Turquie, cet autre grand pays de la région. Et on a le plaisir d'accueillir Didier Billion. Bonjour Didier.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'Institut IRIS et que vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et aussi de la Turquie. D'ailleurs, vous avez, il y a quelques semaines, sorti un ouvrage qui s'appelle « La Turquie, un partenaire incontournable » aux éditions Erol. Jusque-là, je ne me suis pas trompé.
C'est tout à fait exact.
Alors, la question qu'on a envie de vous poser, c'est que on a le sentiment qu'il y a une crise diplomatique plus ou moins larvée entre la Turquie et ses principaux partenaires occidentaux. Il y a également, et là c'est de la politique intérieure, des décisions politiques et économiques qui font débat en Turquie et qui en tout cas ne créaient pas, on va dire, le consensus autour du président Erdogan, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la première question peut-être que j'ai envie de vous poser, c'est quand même le coup de sang, enfin en tout cas on analyse ça, le chantage du président turc qui a menacé à plusieurs reprises d'expulser des diplomates occidentaux, y compris des représentants américains. Et alors on est un peu dans des postures, hein. Souvent le président Erdogan menace. Parfois, il passe à l'acte. Là, pour l'instant, on en est aux menaces. Néanmoins, ça a surpris beaucoup d'observateurs, que y compris les partenaires américains, qui sont quand même un allié historique, soient à ce point menacés et malmenés par le président turc.
Oui, je comprends parfaitement votre interrogation. Elle est légitime parce que les déclarations du président Erdogan sont parfois un peu erratiques. Pour mémoire, il y a 2 semaines, il y a 10 ambassadeurs en poste à Ankara qui ont fait un courrier, une lettre ouverte, exigeant la libération d'un homme qui est en prison depuis maintenant 4 ans, dont les charges sont assez floues, qui a déjà été acquitté une première fois il y a 2 ans, puis qui s'est tout de suite retrouvé en prison, avant même d'ailleurs qu'il n'ait le temps d'en sortir, sous d'autres motifs d'inculpation. Et on sait par exemple que la réunion ministérielle du Conseil de l'Europe, on sait que la Cour européenne des droits de l'homme ont exigé la libération de cette personnalité importante de la société civile. Et alors le fait que 10 ambassadeurs en poste à Ankara face à cette lettre ouverte, a été jugée par Erdogan comme une attaque insupportable à l'encontre de la souveraineté turque et à l'encontre de l'indépendance de la justice turque, dont on pourrait d'ailleurs s'interroger sur la réalité, tant cette justice turque a été ô combien épurée, malheureusement, depuis la tentative de coup d'État du mois de juillet 2016. Et alors, dans la foulée, il a effectivement déclaré ses 10 ambassadeurs comme persona non grata, et donc exigeant de la part de son ministre des Affaires étrangères de s'occuper de leur expulsion. Donc, il y a 1 semaine juste, la tension était à son comble, parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait expulsion réelle de ces 10 ambassadeurs. Ce qui aurait eu une réaction en chaîne, c'est que les ambassadeurs turcs des 10 pays concernés, évidemment, auraient été à leur tour rappelés à Ankara. Donc c'était une crise potentielle extrêmement préoccupante, parce que sur ces 10 ambassadeurs, je me suis amusé à faire le compte, il y en avait 10 de pays de l'OCDE, 7 d'entre eux faisant partie de l'OTAN, dont les États-Unis, dont vous avez rappelé l'importance, 6 membres de l'Union européenne, 5 parmi les partenaires clés au niveau économique de la Turquie. Donc la crise était évidemment violente, mais en même temps porteuse de conséquences extrêmement préoccupantes pour une Turquie qui est dans une situation économique très très inquiétante, et je vais y revenir ensuite. Heureusement, je pense que le ministère des Affaires étrangères et le ministre lui-même a tenté de convaincre Erdogan de faire baisser la tension, et je ne rentre pas dans les détails, mais on est arrivé finalement à une forme de compromis. C'est-à-dire que, notamment, l'ambassadeur des États-Unis a sorti un texte sur les réseaux sociaux, une déclaration indiquant qu'il concevait sa mission dans le cadre de la Convention de Genève, c'est-à-dire que sa fonction d'ambassadeur ne pouvait pas outrepasser celles qui sont liées à la fonction, et surtout ne pas s'occuper des questions intérieures de la Turquie. Et à ce propos, M. Erdogan a répondu que dans ces conditions, il n'était plus question d'expulsion. Ce qui est inquiétant dans cette affaire, c'est effectivement l'hyper-réactivité de M. Erdogan. Et quand je dis hyper-réactivité, ce n'est pas un compliment. Je pense que le travail diplomatique, où que ce soit, dans quelques pays que cela se trouve, doit faire la preuve d'une certaine retenue, d'une certaine prise de distance, du recul sur les événements pour éviter justement que des décisions impulsives ne soient prises. Or, apparemment, le président Erdogan n'est pas doté de ces qualités. Il y a toujours une capacité malheureuse à réagir trop vite, de façon impulsive, ce qui n'est jamais de bon conseil quand on s'occupe de questions diplomatiques, et nous en avons eu encore une fois la preuve. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des déclarations à l'emporte-pièce, il ferait mieux de réfléchir un peu plus avant et de s'occuper des potentielles réactions que cela pouvait entraîner, y compris du point de vue des intérêts nationaux de la Turquie. Donc on a là un problème de fonctionnement un peu inquiétant. Mais tout cela ne peut se comprendre que si on replace cette séquence malheureuse, mais qui est maintenant derrière nous, et tant mieux, que dans le cadre un peu dégradé de la situation économique et politique de la Turquie. En effet, la Turquie connaît une passe économique compliquée. Alors, je sais bien que la plupart des pays qui constituent notre bas-monde sont dans des situations économiques souvent compliquées, la pandémie ayant évidemment aggravé ces difficultés. Pour autant, en Turquie, moi j'ai m'y trouvé il y a 2 semaines très précisément, j'ai pu constater des visus qui a une reprise de l'inflation, environ 20%, qui a un taux de chômage officiel de 15% environ, mais en réalité probablement beaucoup plus important, près du double. Certains prétendent, certains économistes, qui auraient 27% de chômeurs de la population active. Il y a une baisse des taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale, donc une dévaluation de la livre turque. Tout cela est très inquiétant. Et est aggravé par le fait que M. Erdogan se comporte un peu comme s'il était économiste en chef de la Turquie, alors qu'il n'en a pas les compétences. Mais c'est la conséquence politique de cette situation économique qui est dégradée, qui est importante, parce que incontestablement, M. Erdogan, il est depuis presque 20 ans au pouvoir, hein, je le rappelle, avait su contribuer à des résultats économiques époustouflants de la part de la Turquie. Je rappelle toujours qu'il y a une dizaine d'années, le taux de croissance annuel en Turquie était de 8, 9, 10% pendant 3 ans successifs.
C'est des taux de croissance asiatiques.
Absolument.
Et plus asiatiques qu'occidentaux.
Ah, tout à fait.
Sachant que la Turquie est entre les deux, mais bon.
Oui, vous avez raison de le rappeler, parce qu'à l'époque, c'était à peu près l'équivalent du taux de croissance chinois, à l'époque, j'entends bien.
Oui, c'est pour ça que je me permets de faire cette petite incise.
Et c'était le premier taux de croissance des pays membres de l'OCDE, dont fait partie la Turquie. Donc c'est effectivement tout à fait impressionnant. Alors, ce qui est important, c'est la conséquence politique, c'est-à-dire qu'à l'époque, s'est cristallisée en Turquie une véritable classe moyenne qui votait pour Erdogan, non pas du tout pour des convictions religieuses ou confessionnelles, mais parce que il considérait, à juste titre à l'époque, que Erdogan était un petit peu la machine, le responsable qui avait été capable de...
Il accompagnait cette évolution positive de l'économie turque.
Voilà. C'est chose terminée. C'est-à-dire que ces classes moyennes subissent aujourd'hui de plein fouet cette crise économique, et évidemment, son électorat est en train de se rétracter. Je rappelle que lorsqu'il a été élu président de la République, il a eu 51% des suffrages, il est passé au premier tour. Aujourd'hui, les sondages dont il est crédité, c'est de 30%. Et encore, me dit-on en Turquie, que ces sondages sont sûrement un peu trop
améliorés.
Oui, parce que quand on téléphone, les sondages, ils sont comme en France. Ouais. C'est-à-dire que c'est des instituts qui téléphonent chez les gens en leur disant « Pour qui voteriez-vous aux prochaines élections ?» Je le précise, les prochaines élections, c'est prévu en 2023. Donc c'est demain, ou après-demain en tout cas. Et donc évidemment, au vu de la situation politique en Turquie, quand on vous interroge par téléphone, on n'a peut-être pas forcément envie de dire qu'on va voter pour des candidats d'opposition. Donc les 30% dont il est crédité sont peut-être surévalués, sont peut-être améliorés, sont peut-être un peu trafiqués. Donc tout cela implique que M. Erdogan a besoin, de son propre point de vue, de reconstituer sa base électorale. Or, pour ce faire, il utilise un procédé qui est bien classique, c'est-à-dire qu'il attise la fibre nationaliste qui existe au sein d'une partie de l'électorat turc, et ce qui permet de comprendre l'épisode des diplomates dont nous parlions précédemment. C'est-à-dire qu'il considère, probablement à tort, mais enfin, de son point de vue, c'est ainsi, qu'il faut aiguiser cette...
ces tensions un peu internationales,
voilà.
Pour créer un sentiment de patriotique, de réaction exactement. Patriotique par rapport aux mauvaises actions des alliés ou des adversaires traditionnels de la Turquie.
Exactement, parce que, bon, on l'a dit tout à l'heure, l'attaque contre les diplomates a été forte. Là, si je reviens au niveau économique, il a commis un certain nombre de déclarations depuis déjà plusieurs mois, attaquant des forces obscures qui voudraient en découdre avec la Turquie, en attaquant le lobby des taux d'intérêt, je le cite, etc. Tout cela sont des attaques qui n'ont aucun fondement, bien évidemment. Si la Turquie connaît des difficultés économiques, c'est pas à cause de forces obscures qui voudraient la dépecer.
Vous rappelez aussi dans votre ouvrage la centralité de la question kurde, qui est aussi largement instrumentalisée à des fins de politique intérieure.
Eh oui, malheureusement, parce que je crois que cette question kurde, c'est le défi principal de la Turquie. Je suis de ceux qui considèrent que tant que cette question kurde n'aura pas été réglée, politiquement, positivement, eh bien la Turquie ne pourra pas reprendre sa marche à la démocratisation. Ça, c'est une certitude. Or, pour ce faire, la Turquie a besoin de parvenir à un compromis. Or, pour parvenir à un compromis, il faut repolitiser ce dossier. Je crois que c'est une illusion totale que de considérer que la question kurde pourra se régler de façon militaire. Or, c'est pourtant la ligne qui est développée par l'État turc, considérant qu'une fois que le PKK, ce fameux parti des travailleurs du Kurdistan, qui mène une lutte armée en Turquie depuis maintenant de nombreuses années, puisqu'elle a été initiée en 1984, donc l'État turc considère que s'ils parviennent à éradiquer le PKK, la question kurde sera réglée. Mais deux problèmes. D'une part, la question kurde ne se réduit pas à la question du PKK, première chose. Et deuxième chose, moi je constate que cette lutte militaire contre le PKK, qui existe donc depuis 1984, a fait à minima 45 000 morts. Et ce que je constate aussi, c'est que le PKK est aujourd'hui plus puissant qu'il ne l'était en 1984. Donc les méthodes qui ont été utilisées ne sont pas les bonnes. Donc il faut en revenir à la table de négociation. Je dis cela parce que M. Erdogan avait eu le courage, ça il faut le reconnaître, entre la fin de l'année 2012 et l'été 2015, donc pendant plus de 2 ans, il avait accepté que des négociations puissent avoir lieu avec la direction du PKK. À l'époque, ces négociations étaient menées par les services secrets turcs. Et c'était courageux. Malheureusement, cela n'a pas abouti. Et pourquoi cela n'a-t-il pas abouti? Et j'en reviens à votre question. C'est parce que il a instrumentalisé cette question kurde à un moment donné, alors que son pouvoir était déjà un peu affaibli à l'été 2015, pour prouver qu'il était le seul capable de défendre la Turquie contre les menées séparatistes. Et donc, il a coupé court à toute possibilité
de règlement négocié et pacifique de la question kurde.
Donc, on voit que cette question kurde, dont je pense véritablement, on risque de me répéter, qu'elle constitue le défi principal, ce n'est pas le seul, c'est le principal, entre autres parce que 20% des citoyens turcs sont d'origine kurde, donc il y a un phénomène massif, ne serait-ce que d'un point de vue numérique.
Démographique.
Il est absolument nécessaire, souhaitable, que dans les meilleurs délais, des négociations puissent reprendre. Ceci étant, je vous l'avoue honnêtement, je ne suis pas très optimiste, puisque comme il y a ces échéances électorales qui s'annoncent pour dans 2 ans...
C'est pas à la veille des élections qu'il va y avoir un compromis.
Eh ben oui, c'est très probable. Malheureusement. Donc on est dans une situation de blocage, de poursuite des combats, des escarmouches diverses et variées, aggravées par le fait, bien évidemment, que les bases du PKK se trouvent en partie dans le nord de l'Irak, et donc M. Erdogan n'hésite pas à procéder à des bombardements sur des camps du PKK du nord de l'Irak, ce qui, vous le comprendrez aisément, n'est pas du goût des autorités irakiennes. Et puis, évidemment, il y a la question syrienne, dont plus personne ne parle désormais, mais où nous savons, des bases de partis frères du PKK existent dans cette fameuse région qu'on appelle le Rojava. Donc, non seulement il y a une dimension de politique intérieure, mais aussi de politique régionale, puisque l'armée turque est intervenue à plusieurs reprises contre les territoires gérés par l'organisation sœur du PKK dans le nord de la Syrie. Donc on comprend qu'il y a une dimension régionale qui rend encore plus compliquée la résolution de ce dossier kurde qui est véritablement une épine dans le talon de la Turquie aujourd'hui.
Alors une dernière question rapidement parce qu'il nous reste une minute. Là aussi je reviens sur un des chapitres de l'ouvrage. vous insistez sur les transitions économiques, démographiques, le vieillissement de la population, la fécondité en baisse. Bref, c'est une Turquie nouvelle qui se dessine, et peut-être aussi que les deux décennies d'Erdogan restent sur la Turquie d'il y a 20 ans, et que peut-être la Turquie de l'avenir aujourd'hui, ce pouvoir a du mal à la comprendre et à l'accompagner.
Oui, c'est tout à fait exact. Et Erdogan a sûrement été parti au processus de modernisation de la Turquie, mais il est désormais un peu dépassé. Je ne vous prendrai qu'un exemple, puisque nous n'avons pas le temps de développer plus avant. C'est les dernières élections municipales, celles qui se sont déroulées il y a deux ans et demi maintenant, où les deux plus grandes villes du pays, Ankara et Istanbul, sont passées aux mains de l'opposition, tout simplement parce que justement les classes moyennes que j'évoquais tout à l'heure, et qui se regroupent principalement dans les grandes métropoles urbaines que sont Ankara et surtout Istanbul, ne sont plus maintenant disposées à voter pour M. Erdogan, à la fois pour des raisons économiques que nous avons déjà évoquées, mais aussi parce qu'une partie de ces classes moyennes ne supporte plus l'autoritarisme, la volonté de faire régner une sorte d'ordre moral que M. Erdogan veut imposer à la Turquie. Donc il y a toute une série de facteurs qui sont en train de se conjuguer et qui me font penser que la partie va être très compliquée pour M. Erdogan pour se maintenir au pouvoir dans 2 ans. Pour autant, ça ne signifie pas évidemment que mécaniquement les oppositions vont parvenir au pouvoir. Cela dépendra fondamentalement de la capacité de ces oppositions à s'unir pour fournir une alternative à l'électorat turc. C'est souhaitable très probablement pour la démocratie turque, mais rien n'est jamais écrit à l'avance, bien évidemment, ni en Turquie ni ailleurs.
Merci beaucoup Didier Billion pour cette intervention dans l'émission et avoir éclairé de vos analyses très souvent pertinentes la situation en Turquie. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'Institut Iris et que vous avez été l'auteur il y a quelques semaines d'un ouvrage aux éditions Erol, La Turquie, un partenaire incontournable. Et donc, eh bien, nous suivrons, comme nous le faisons régulièrement dans l'émission, la situation en Turquie, ce grand pays qui est entre l'Occident et l'Asie. Merci Didier,
écoutez,
en tout cas.
Merci à vous, à bientôt.
À très bientôt.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.